La Rome de César a perdu sa grandeur multiséculaire. Les barbares ont envahi l'Italie et ont porté avec eux la destruction et la violence. L'instruction venait à manquer et les enfants croissaient dans l'abandon et dans le vice. Le spectre de la misère et de la faim avançait inexorable. Finalement, Théodoric, roi des Visigoths, s'empare du pouvoir et rétablit la paix. Les écoles sont rouvertes, la sécurité revient. Nous sommes vers la fin du 5e siècle. Benoît était né peu de temps auparavant, vers 489, à Nurcie, ville de l'Ombrie, verdoyante, terre féconde en vin et en sein. Ses parents Eutrope et Abondance étaient les plus regardés et les plus riches seigneurs du lieu. Ils entretenaient une secrète ambition au sujet de leur fils. Leur fils scolastique était déjà entre les mains des religieuses d'un couvent. Il ne leur restait donc qu'à pourvoir à l'éducation de Benoît. Rome est très éloignée. Les 100 kilomètres qui la séparent de Nurcie représentent beaucoup pour l'époque. Mais seule la Rome éternelle, la cité des martyrs et des empereurs, est estimée digne de recevoir le génie prometteur de Benoît. Mais quelle désillusion! Rome est aussi grande qu'elle est frivole. Ce n'est certes pas la vicieuse exubérance de ses camarades, ni l'enseignement des professeurs païens qui peuvent satisfaire l'âme généreuse de Benoît. Il est à peine adolescent, mais il a déjà compris que la vraie noblesse se forge dans l'intime de l'âme et se développe dans la tranquillité et le silence. Il suivra la suggestion de son inséparable Cécile. Sa nourrice. À 16 ans, il laisse l'air stagnant de la ville pour celui plus sain de la campagne. Le voici à Aphilo, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, pays d'origine de la vieille nourrice. Là, Benoît suit avec beaucoup de profit les leçons d'un pieux et sage prêtre, curé du lieu. Il a enfin trouvé des compagnons sérieux, studieux et charitables. Avec la science, il découvre la piété. Il passe de longs moments en prière et en méditation. La lumière de la grâce divine transparaît sur son visage. Les habitants d'Aphilo restaient extasiés de son regard lumineux et de son air à la fois sérieux et aimable. Qui le fréquente ressent le désir de devenir meilleur. Le premier miracle opéré par le saint étend sa réputation de sainteté dans toute la contrée. La vieille nourrice ressentait une grande peine parce qu'elle avait brisé par inadvertance un pot de terre qu'on lui avait prêté. Benoît prie et voici que les morceaux du pot se rassemblent et se soudent miraculeusement. Le récipient redevient comme neuf. Benoît n'a pas encore trouvé sa voie. L'estime illusoire des hommes lui fait désirer avec grande force la vie cachée et le mépris. Pas loin d'Aphilo, il découvre une grotte naturelle, creusée dans le rocher, cachée et presque inaccessible. Elle deviendra son habitat, unique témoin de sa vie de prière et de pénitence. En explorant la région, il rencontre un moine nommé Romain. Ce dernier lui offre son aide spirituelle et matérielle, lui donne un habit religieux et promet de garder jalousement le secret de sa présence dans ces lieux. Le bourg le plus proche se nomme Subiaco. Romain témoigne d'un monastère surplombant la grotte de Benoît. Il n'y avait aucun sentier praticable qui conduise directement du monastère à la grotte. C'est pourquoi Romain, pour lui remettre une partie de sa portion de pain, la faisait descendre d'en haut en se servant d'une corde à laquelle il avait attaché une clochette pour avertir Benoît de sa présence. Il en fut ainsi tous les jours durant 3 ans. La vie de Benoît se déroulera entre la prière et la pénitence la plus austère. Les tentations du diable ne manqueront pas, car le démon ne pouvait se résigner à laisser tranquille une âme qui allait lui en ravir tant d'autres. Mais Benoît, avec la grâce de Dieu, sort toujours victorieux. Après 3 ans de cette vie austère, le jour de Pâques, il voit apparaître devant lui le curé du village, qui le demande pour partager avec lui le repas pascal. Notre Seigneur lui avait dit de partager son repas avec Benoît, qui souffrait de la faim. Benoît comprit que le Seigneur avait jugé suffisante l'épreuve de la solitude et se disposa à partir à la rencontre des âmes. Rapidement se répand le bruit de sa présence. Les bergers des alentours, d'abord craintifs, finissent par devenir avides d'écouter sa parole. Ils se voueront à l'assister pendant qu'il distribuera la nourriture de la divine vérité à ses âmes, encore enrobées des ténèbres de l'ignorance religieuse et de l'idolâtrie. Un matin, Benoît voit arriver un groupe de moines. En mourant, leur père abbé avait désigné Benoît comme devant lui succéder à la tête de la communauté. Benoît, pressentant les graves difficultés, refuse catégoriquement. Vous êtes trop jeune, et nous ne pourrons jamais nous mettre d'accord quant à la diversité de nos habitudes. Mais à la fin, il se rend devant leur insistance de crainte que son refus ne soit contraire à la volonté de Dieu. Ainsi, à 20 ans, le voilà abbé du monastère de Vicavoro. La discipline laissait à désirer. Il y mit bon ordre, ce qui ne manqua pas de susciter la mauvaise humeur de ceux qu'il avait élus, pensant qu'à cause de son jeune âge, ils auraient pu continuer tranquillement leur vie de relâchement. On décida même de l'empoisonner, mais la coupe de vin se brisa en 1000 morceaux dès que Saint Benoît l'eut bénite. Il regarda les frères autour de lui, puis il dit « Dieu vous pardonne, mes frères, de ce que vous avez voulu faire. Ne vous avais-je point dit que nous ne pourrions jamais vivre ensemble? Cherchez un autre supérieur, car désormais vous ne pourrez plus compter sur moi. » Il retourna donc dans la solitude de Subiaco. Mais le désir de Dieu était autre. Voici que des disciples viennent pour vivre sous sa direction. Ils se répandent dans les grottes voisines. Très vite, il y en a 150 qui prennent Saint-Benoît comme leur guide spirituel. Mais une communauté aussi vaste ne peut continuer à vivre dans des grottes. Saint-Benoît se servit des ruines du palais de Néron pour construire un vrai village monastique. Chaque maison est un petit monastère avec un abbé et une 12aine de moines. Benoît est leur supérieur général. Parmi les plus célèbres disciples de Saint Benoît, on cite Saint Maur et Saint Placide. Fils de sénateur romain, Saint Maur répandit l'ordre au dehors d'Italie. Saint Placide entra dès l'âge de 6 ans. On raconte qu'un jour, Saint Placide étant tombé dans l'eau d'un torrent, Saint Benoît le vit en esprit et commanda à Saint Maur d'aller le secourir. Saint Maur obéit promptement, se précipita et tira sur la rive Saint Placide. C'est alors qu'il réalisa avoir marché sur l'eau. Dieu avait récompensé l'obéissance de Saint Maur. Un novice s'attristait de ce qu'il avait perdu dans l'eau, l'outil qu'il utilisait. Saint Benoît, prenant connaissance de la chose, sort de l'eau miraculeusement l'outil et le lui rend. Quelques moines habitent dans les hauteurs arides, où il est très difficile de trouver de l'eau. Le bon Saint Benoît, ému de compassion, monte la nuit avec Saint Placide, puis après avoir prié, pose trois pierres, une sur l'autre, dans un lieu déterminé, puis retourne au couvent. Le lendemain, les moines découvrent l'eau, qui jaillit fraîche et abondante du lieu où Saint Benoît avait posé les trois pierres. Avec une grande joie, le saint abbé voit fleurir dans son monastère les plus délicates vertus chrétiennes. Mais comme le malin veille toujours, voici qu'un certain Florent, curé de paroisse voisin de Subiaco, commence à jeter sur le monastère toutes sortes de calomnies. Saint Benoît ne perd pas sa sérénité. Il voit même dans l'hostilité toujours croissante de Florent comme un signe de la providence divine qui le veut ailleurs. Car en Italie, il reste encore beaucoup de régions païennes à christianiser. Il s'en va donc en 529 avec une grande partie de la communauté de Subiaco. Il n'avait pas fait quelques heures de marche qu'il voit Saint-Maur qui lui crie joyeux. Père, revenez sur vos pas. Celui que vous persécutez est mort sous ces ruines. Sa maison est tombée sur lui. En effet, pendant qu'il regardait les moines partir, la maison s'écroula sur Florent qui mourut. Saint-Maur ne peut s'empêcher de laisser percevoir une légère satisfaction qui n'échappe pas à Saint-Benoît. Saint-Benoît le réprimande sévèrement. Vous n'avez pas honte de vous réjouir des malheurs d'autrui. Puis il se recueille en lui-même, prie pour son ennemi et se met à pleurer. Il ne revient pas sur ses pas, mais il continue son chemin vers le mont Cassin. Un ange lui indique la route qu'il faut prendre. C'est bien là un signe que le Seigneur le veut ailleurs. Ils arrivent en vue du mont Cassin, où s'élève une forteresse abandonnée. Ce lieu leur convient à merveille parce qu'il favorise la solitude, base de toute vie monastique. Dans les bois du mont se trouve un temple dédié à Apollon, particulièrement fréquenté. Benoît ne tarde pas à le jeter à terre. Il se met à prêcher dans les campagnes voisines, déclarant la guerre ouverte aux démons. Un jour, il apprend que Martin, un moine austère, vit dans une grotte attachée par des chaînes fixées à un rocher. Il lui envoie ce message. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ doit te garder, non des chaînes de fer. Martin comprend, il brise sa chaîne et se donne à Dieu avec beaucoup d'amour. Car l'amour de Dieu est la douce chaîne qui nous éloigne du mal et nous rend heureux. Après avoir détruit le temple de Satan, Benoît se fait l'architecte de Dieu. Ainsi, il construit avec les murs de la vieille forteresse du mont Cassin un monastère avec sa chapelle, son réfectoire, son dortoir, sa salle des hôtes. Un jour, le feu se déclare dans les cuisines. Les moines pensent que l'idole enterrée là a suscité l'incendie, mais ce n'est qu'une illusion diabolique. Ils font le signe de la croix et le feu disparaît. Benoît est un saint qui pénètre les pensées de ses proches. Un jour, un jeune homme, grand amateur de vin, essaie de cacher un des deux flacons offerts à Benoît par un châtelain des environs. Benoît lui dit « Regarde le flacon que tu as caché avant de le boire. » Le jeune homme, en effet, y découvre un serpent. Sous la direction du père, le monastère du Mont Cassin devient un asile de bonté. 7 fois par jour, les moines se rendent à la chapelle pour chanter les louanges du Seigneur. Ils apprennent aussi chacun un métier qui pourra être utile à toute la communauté. Prière et travail sont les composantes de la vie monastique. L'hospitalité est une des caractéristiques des monastères bénédictins. Ils reçoivent aimablement tous ceux qui se présentent, voyant en chacun des hôtes Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, avant d'entrer dans un réfectoire bénédictin, le Père supérieur vous verse l'eau sur les mains en signe d'hospitalité. Un soir qu'il ne restait plus que 5 pains à manger, Saint Benoît exhorte ses moines à la confiance en Dieu. Dieu qui n'abandonne pas les oiseaux du ciel ne va pas laisser ses moines qui travaillent et vivent pour lui. En effet, le jour suivant, on leur apporte 200 sacs de farine. La faim attire de nombreux pauvres au monastère. Benoît conseille au père économe de ne jamais rien refuser aux pauvres. Un jour, le père garde un vase d'huile pour les besoins de la communauté. Saint Benoît la prend et jette le vase par la fenêtre. Le lendemain, on le retrouve intact et rempli d'huile. Dieu récompense toujours ceux qui se confient dans sa bonté. Un jour, un religieux, lassé de la vie monastique, réclame sa liberté. La permission de s'en aller lui ayant été donnée par le père abbé, il sort du monastère. Mais il est arrêté par un énorme dragon. Le moine comprend son erreur et revient bien vite demander pardon. Saint Benoît est considéré partout comme le protecteur des faibles et des pauvres. Un jour, un pauvre homme est capturé par des bandits qui veulent le mettre à mort, car ils n'ont pas trouvé d'argent sur lui. Le malheureux a une idée. « J'ai de l'argent, mais il se trouve dans la maison de mon proche voisin. » Le père abbé du Mont Cassin. On amène l'homme au monastère afin qu'il demande son dû. Saint Benoît le regarde calmement. Alors les chaînes de l'homme se brisent et les bandits tombent à genoux au pied du saint. Totila, le terrible roi Visigoth, ne peut soutenir le regard de Saint Benoît. En sa présence, il ne peut s'empêcher de se cacher le visage. Saint Benoît lui ordonne de s'agenouiller et d'obéir. Il le reprend pour ses méfaits et lui prédit la mort dans les 10 ans, ce qui eut lieu. Durant le printemps 547, Saint Benoît reçoit la visite de sa sœur scolastique, qui était devenue abbesse d'un couvent de religieuses. Ensemble, ils parlent longtemps du ciel. Le soir, Saint Écolastique demande à son frère la permission de prolonger la conversation. Benoît refuse à cause de la règle qui ne prévoit pas qu'un religieux s'attarde au dehors du couvent. Saint Scolastique s'adresse alors à Dieu. Et voilà que le ciel, pourtant beau, s'obscurcit soudain et un orage éclate qui empêche Saint Benoît de sortir. Ils reprennent donc leur conversation céleste qui durera jusqu'au matin. Peu après, Saint Scolastique meurt et Saint Benoît voit son âme entrer dans le ciel sous la forme d'une colombe. Son corps est transporté au Mont Cassin et enseveli dans la tombe que Saint Benoît avait préparée. La même année 547, le 21 mars, Saint Benoît meurt à son tour. Pris d'une violente fièvre, il s'est fait transporter à l'église. Là, il reçoit à genoux la Sainte Eucharistie, soutenue par deux moines. C'est dans cette position qu'il expire. Ses frères éloignés apprirent par une vision céleste que Saint Benoît avait rejoint le ciel. Ainsi mourut Benoît, père du monachisme occidental. Ses monastères se répandirent rapidement dans le monde entier comme un phare lumineux de foi et de civilisation. Ils furent si zélés qu'ils réussirent quelquefois au prix de leur propre sang à vaincre l'ignorance et la brutalité des païens. C'est pourquoi le pape Pie XII proclamera Saint Benoît patron de l'Europe en 1947. Aujourd'hui encore, les moines bénédictins, par leurs prières et leur travail, élèvent le monde. Ils continuent dans le silence des monastères le rude combat pour la sainteté. Janvier 1873. La maison de l'horloger Louis Martin de son épouse Marie Zélie Guérin à Alençon est toute joyeuse de la naissance d'un cinquième enfant, une fille qu'on prénommera Thérèse. La mère très pieuse n'a qu'une pensée, la faire baptiser au plus vite, mais il fallait attendre l'arrivée du parrain. La vie de Thérèse connaît déjà un frein au désir qui caractérisera toute sa vie, aller vers Jésus. Enfin, le grand jour de sa naissance à la grâce est arrivé. Le prêtre verse l'eau sur la tête de l'enfant. Thérèse, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais l'enfant est de faible santé. La pâleur de son visage inquiète la mère qui l'envoie en nourrice dans les environs à Samaillé. Si elle devait nous être enlevée, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mais Dieu avait prévu un autre destin pour sa petite Thérèse et l'enfant guérit au contact du bon air de la campagne. Déjà, monsieur le curé l'a remarqué à sa vivacité. Que Dieu bénisse la petite Thérèse et que sainte Thérèse, ta patronne, te protège et t'aide à devenir une sainte comme elle. Thérèse rétablie retourne à Alençon. Mais son caractère a changé. Elle pleure facilement. Elle semble ne pas s'adapter à son nouveau milieu de vie. Un jour, il pleut. Thérèse se prépare, car tous les matins, elle se rend à l'église pour prier. Mais ce jour-là, elle ne peut pas. À cause de la pluie, on ne sortira pas. Et la voici de nouveau en larmes. Son amour de Jésus s'annonce déjà ardent et passionné. Avec Céline, sa sœur, elle joue à qui fera le plus de sacrifices dans la journée. On compte chaque sacrifice sur des grains qu'on fait défiler entre ses doigts. Il y a 15 grains, mais Thérèse les a très vite dépassés. Ses actes de vertu quotidienne devenaient chaque jour plus nombreux. Quand Thérèse eut 4 ans, sa mère mourut. Le père resta seul avec ses filles. Cette mort laissera un vide chez les Guérin. Thérèse se détache des joies de la terre à l'école de la vie. On déménage, on va s'installer à Lisieux, dans la maison Claire des Buissonnets. Pauline va apprendre à lire et à écrire à sa petite sœur Thérèse. Thérèse maintenant maîtrise sa vivacité pour s'infliger une ferme discipline, offrant toutes ses fatigues à Jésus. Chaque jour, le père les amène faire une belle promenade jusqu'au Carmel de Lisieux, où on assistait alors à la bénédiction du Saint-Sacrement. Tu vois, Thérèse, ces personnes sont des religieuses qui prient continuellement le bon Dieu. Ainsi, dès son jeune âge, Thérèse vivra bercée au rythme de la religion. Le jeudi, le père les conduit à la campagne. Au contact de la création, le cœur de Thérèse s'enfle d'amour. Les fleurs, les oiseaux, l'eau, le soleil, tout lui parle de Dieu. Père, regardez là-haut dans le ciel. Les étoiles forment la lettre T. Thérèse, comme le bon Dieu est bon, il a écrit mon nom dans le ciel. Pendant que son cœur s'attachait de plus en plus à Dieu, elle se sentait prise de compassion pour les pauvres et les malheureux. Tous les lundis, elle allait leur porter une aumône. Grande était son émotion ce jour-là. Thérèse, qui aimait ardemment Jésus-Eucharistie, attendait la fête du Saint-Sacrement comme le plus beau jour de l'année. Ce jour-là, elle jetait des fleurs devant Jésus, qui était porté dans une solennelle procession à travers les rues de la ville. À 8 ans, elle entra à l'école tenue par les bénédictines. Ce fut un gros sacrifice pour celle qui n'avait jamais quitté sa famille. Elle s'attira vite l'estime de tous à cause de sa patience, de sa douceur et de son caractère agréable. Le 2 octobre 1882, sa sœur Pauline entre comme religieuse au Carmel de Lisieux. La douleur de la séparation est telle que Thérèse tombe gravement malade. On craint pour sa vie. Son état empire, seul un miracle peut la sauver. Et le miracle a lieu. La statue de la Vierge lui apparaît lumineuse et lui sourit. Thérèse est guérie. Le grand désir de Thérèse, c'est de recevoir Jésus hostie. Mais à cette époque-là, on communiait pas avant au moins 10 ans. Il va falloir attendre, encore attendre. Enfin, le grand jour est arrivé. Le jeudi 8 mai 1884, Thérèse reçoit Jésus avec une intense dévotion. Jésus, je vous aime, je serai votre toujours. Mais le démon ne la laisse pas tomber pour autant. Thérèse est belle, intelligente. Les tentations du monde l'assaillent. La jeunesse frivole va au bal, s'amuse. Non, la vie passe vite, Thérèse. Non, la vie passe vite. Thérèse veut aller au ciel, elle veut Jésus. À mesure qu'elle s'avançait d'un âge, le désir de sauver l'âme du prochain croissait dans le cœur de Thérèse. En demeurant recluse dans un monastère, en offrant prières et sacrifices, la petite Thérèse peut conduire à Dieu des milliers d'âmes. Mais elle est encore trop jeune pour se faire religieuse. En attendant, elle fait connaître notre Seigneur Jésus-Christ en enseignant le catéchisme. Ses prières étaient intenses, ferventes et efficaces. Elle réussit un jour à convertir un condamné à mort qui allait mourir sur l'échafaud sans se repentir de ses crimes. Jésus, Dieu miséricordieux, je suis prête à faire n'importe quel sacrifice pour le salut de l'âme de ce malheureux. Au moment de monter à l'échafaud, le condamné baise 3 fois le crucifix présenté par le prêtre. Un jour, elle s'approche de son père qui se tient assis dans le jardin. Père, j'ai une chose importante à vous demander.
Qu'y a-t-il, mon enfant ?
Père, je voudrais devenir carmélite. Ô Père, je vous prie, donnez-moi votre accord.
On alla voir l'évêque de Bayeux afin d'obtenir l'accord pour que Thérèse soit carmélite.
L'accord de l'évêque était nécessaire, car Thérèse n'avait que 15 ans. Elle était bien trop jeune. L'évêque lui répondit d'attendre. À l'occasion du jubilé sacerdotal du pape Léon XIII, Louis Martin sera à Rome avec sa fille. Thérèse décide de demander au pape lui-même la permission d'entrer au Carmel. Le pape répond : ma fille, résignez-vous à la volonté de Dieu et faites ce que votre supérieur décidera. Je vous donne ma bénédiction. Le 28 décembre 1887, elle reçoit enfin l'autorisation d'entrer au Carmel avant l'âge prévu. Le 9 avril 1888, à 15 ans et 4 mois, Thérèse dit adieu à son père devant la porte du couvent. La règle du Carmel s'avère très austère. Durant 9 mois, Thérèse se donne aux travaux les plus humbles et les plus fatigants. Mais sa foi profonde et son esprit de sacrifice font surmonter toutes les épreuves. Le 28 janvier 1889, c'est la prise d'habit de Thérèse. Le père lui donne une dernière fois sa bénédiction. L'évêque et les sœurs l'attendent dans la chapelle. La porte de la clôture se referme sur elle pour toujours. Conduite par la mère supérieure et accompagnée des sœurs qui psalmodient, elle parcourt les couloirs du cloître. En passant devant la statue de l'enfant Jésus, elle le remercie. La neige tombe dehors. Thérèse avait justement souhaité de la neige pour le jour de sa prise d'habit. Merci, désormais je m'appellerai Thérèse de l'enfant Jésus. Merci pour tout, pour cette neige que vous faites tomber. Voici le moment le plus solennel de la cérémonie. Elle quitte son habit de mariée pour prendre la rude robe du Carmel.
Elle quitte sa couronne de fleurs pour prendre le voile blanc de l'ordre. Puis Thérèse se prosterne en signe de profonde humilité, renonçant pour toujours au monde, afin de vivre en Jésus et pour Jésus son époux. Mais plus Dieu aime les saints, plus il le prouve. Durant son noviciat, Thérèse doit souffrir un véritable martyr. Il lui semblait que le Seigneur ne l'aimait plus, qu'il l'avait abandonné. La veille des vœux solennels, une vraie tempête se déchaîna dans le cœur de Thérèse. Seigneur, doux Jésus, aidez-moi. Ôtez de mon cœur ce doute. C'est certainement l'œuvre du démon qui enrage de ma consécration. C'est vous qui m'avez appelé, Seigneur. C'est vous qui me voulez, Carmélite, que votre volonté soit faite. L'épreuve surmontée, Thérèse peut prononcer en pleine sérénité ses vœux solennels. Depuis ce jour, Thérèse ne fait pas des choses extraordinaires. Elle mène la vie humble et cachée de Jésus à Nazareth, s'efforçant de plaire à Dieu dans les petites choses. Elle accompagne une sœur que la maladie rend de mauvaise humeur et lui montre son plus beau sourire. Chargée de veiller à la sacristie, elle remplit son office dans la plus grande joie. Elle prépare les ornements, le calice et la patène qui doivent servir au saint sacrifice de la messe. Un jour au début de l'année 1895, elle est appelée chez la mère supérieure qui lui dit « Ma chère sœur Thérèse, voulez-vous écrire sur un cahier les détails de votre enfance et tout ce que Dieu a fait pour vous ?» Thérèse, dans son humilité, ne sait que dire. « Alors, mon enfant, faites-le au nom de la sainte obéissance. » Elle écrira ainsi dans un cahier d'écolier l'histoire d'une âme qui va bientôt bouleverser le monde. Dans ce livre, sainte Thérèse nous montre le chemin le plus simple pour rejoindre Dieu. Fin de l'année 1894. Thérèse est malade. La toux la secoue. Elle a des flots de sang qui montent jusqu'à sa bouche. Elle reste couchée par ordre du médecin. Quand il fait beau, on peut la voir encore se promener avec peine dans le jardin. Là, elle médite et elle prie. Mais le mal avance inexorable. En juillet, Thérèse est immobilisée à l'infirmerie. Elle accepte, sereine, héroïque. Le 19 août, elle reçoit avec grande piété la dernière communion. Elle offre sa dernière union à Jésus Eucharistie pour la conversion d'une personne dont les impiétés scandalisent la France entière. Le 30 septembre 1897, à 7h20 du soir, Thérèse dit « Le calice est plein jusqu'au bord. Je n'aurais jamais cru qu'il fût possible de tant souffrir. Jésus, je vous aime. Mon Dieu, je vous aime. » C'est sur ces dernières paroles que son âme s'envole au ciel pour s'unir définitivement à son époux divin. Dans la splendeur de la cour céleste, Thérèse est médiatrice auprès de Jésus d'un nombre incalculable de grâces qui descendent sur les fidèles comme une pluie incessante de roses. Des guérisons miraculeuses eurent lieu par l'intercession de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ainsi, sœur Gabrielle Trimusi, religieuse des Petites Sœurs du Sacré-Cœur à Parme, qui obtient la guérison d'une paralysie des jambes à la fin d'une neuvaine à Sœur Thérèse. Et Marie Pellemann, en Hollande, atteinte à 22 ans d'une tuberculose pulmonaire, soignée inutilement pendant 4 ans. En mars 1898, elle va en pèlerinage sur le tombeau de Sœur Thérèse. Là, elle tombe évanouie. Un prêtre qui se trouvait là cueille une rose qui se trouvait sur le tombeau. Au contact de la fleur, elle reprend vie et elle se sent désormais pleine de force. Le 17 mai 1925, dans la gloire du Bernin de la basilique Saint-Pierre de Rome, l'image de celle qui est désormais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est exposée à la vénération de tout le monde catholique.